toutes et à tous, je m'appelle Tiffaine Amblard, je travaille chez HubSpot pour la HubSpot Academy. Je suis formatrice pour toutes nos certifications sur les produits HubSpot et aussi des concepts, notamment l'account-based marketing. Je connais plutôt bien le sujet, notamment parce que avant de rejoindre les rangs de HubSpot, j'ai travaillé pendant presque 5 ans dans le monde de la tech à Dublin, au sein de Oracle et ensuite LinkedIn, qui fait partie du groupe Microsoft. Et donc j'étais commerciale, donc j'ai pu avoir la chance de lancer des campagnes IBM, d'en faire partie.
Bonjour, Hervé Paolini. Donc je dirige IBM Orchestra et je suis bercé dans l'IBM depuis 12 ans maintenant. J'ai cofondé Azalid, qui était la première plateforme européenne d'IBM en Europe. Ouais, donc on était les seuls avec. Il y avait Demandbase aux États-Unis. Et donc, à l'époque, ça a été l'IBM n'était pas du tout connu. Et depuis donc 5 ans, je dirige IBM Orchestra. On accompagne des grands groupes, IBM One-to-One, comme AWS, comme Samsung, comme Adobe, à accélérer sur quelques comptes stratégiques. Donc, on en reparlera tout à l'heure.
Sébastien Humbert, moi je dirige le marketing pour Microsoft en France depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Comme je disais tout à l'heure, Inès, moi j'ai fait le contraire de ce qu'on m'a dit que j'allais faire en sortant d'école. Ça fait 20 ans que je suis chez Microsoft, où j'ai pu toucher à pas mal de sujets liés au marketing, et plus principalement au marketing digital, dont j'ai dirigé les activités de 2012 à 2018. Où on a mis en place énormément de dispositifs autour du social media management, du social selling, de la production de contenu à échelle ou de nouvelles formes d'événements hybrides à grande échelle et programmatiques. Donc c'est un sujet qui me passionne. Je suis tombé dedans à la fin du XXe siècle pendant mes études et voilà, je me suis développé dedans.
Justement, comme tu le disais en introduction, il y a énormément de manières, je pense, que de définir le account-based marketing. Peut-être qu'il y a autant de manières que de personnes présentes ici, mais je serais curieuse de savoir, pour vous, personnellement, comment vous définiriez le account-based marketing, Hervé ?
Moi, je dirais que c'est le marketing du renoncement. Et donc, c'est une démarche vraiment compliquée et contre-intuitive à faire pour les directions d'entreprises B2B. C'est renoncer à l'ensemble des comptes qui peuvent exister, des petits comptes, en se disant voilà, mon produit est super bien et finalement je peux vendre à tout le monde. Ben non, on peut pas vendre à tout le monde parce que les ressources commerciales, les ressources marketing sont limitées. Donc c'est comme dans la vie, on choisit ses amis, ben il faut choisir ses futurs clients et les choisir avec soin. On en reparlera tout à l'heure dans l'atelier. Les choisir avec précaution parce que de ce choix va dépendre la capacité à croître et la capacité à bien tirer profit des ressources qu'on a dans l'entreprise.
De mariage, de choisir, mais on n'est pas certain parce que le choix peut ne pas être le bon aussi du compte. Est-ce que ça s'impose à nous, même si tu nous en parleras après, mais j'entends le renoncement, mais le choix également.
Le choix, c'est oui, effectivement, ça prend du temps. Il y a certaines personnes qui se marient tard. Et effectivement, il faut venir à l'IBM, mais c'est le résultat d'un long parcours, d'un long cheminement. Comprendre que, effectivement, l'inbound ne suffit pas. Recruter des commerciaux pour attaquer des comptes, des grands comptes. Faire en sorte que ces commerciaux soit grandissent et soient capables d'interpeller ces grands comptes et de mener des discussions et de mener à bien les deals et aussi structurer l'approche commerciale avec des spécialistes. Donc ça prend du temps.
Ouais. Et Tiffaine, justement, toi qui étais du côté berceau de la tech, LinkedIn, qu'il a vécu en plus chez LinkedIn ou chez Oracle en faisant partie de ces commerciaux qui ont pratiqué le account-based marketing, tu le définirais comment toi personnellement ?
En bon français, c'est le marketing des comptes stratégiques. Moi, ce qui me vient tout de suite en tête quand je pense à de l'ABM, je pense alignement marketing et sales. Je sais qu'on l'entend et qu'on le rabâche, mais en fait, dans les faits, c'est très compliqué. C'est compliqué aussi chez HubSpot. C'est l'histoire de ma vie, même encore aujourd'hui, d'essayer d'aller voir les sales et de leur faire comprendre qu'en effet, on travaille aussi et avec eux et pour eux et vice-versa. Et puis, c'est aussi forcément s'adresser à des comptes, je dirais, à fort potentiel. D'où l'intérêt aussi de bien connaître son ideal customer profile.
Quand je préparais en tout cas notre table ronde, une des premières questions qui me venait à l'esprit, c'était de se demander justement, c'était quand le bon moment de faire une stratégie de account-based marketing. C'est quoi les critères à prendre en considération lorsque aujourd'hui on a une boîte qui fait de la croissance, on atteint ses objectifs, on a une structure commerciale qui a évolué, qui s'est sectorisée, qui a développé des expertises, on a des commerciaux juniors, des marketeurs pareil juniors ou seniors, et du coup on se pose la question, est-ce que c'est fait pour moi, du coup peut-être de par votre expérience, Tiffaine, c'est quand le bon moment pour s'y mettre?
Est-ce qu'on peut garder l'analogie du mariage? Est-ce que c'est le bon moment pour se marier? Est-ce qu'à chaque fois on le sait si c'est le bon moment pour faire des enfants? Je pense que c'est une bonne question à se poser également pour l'ABM. À mon avis, ça demande tout d'abord beaucoup d'humilité. Tout le monde ne peut pas faire de l'ABM. Je pense que c'est un fait. Ça dépend encore une fois de votre activité, votre offre de produits, de services. À mon sens, le bon moment pour faire de l'ABM quand on peut en faire, c'est quand on a déjà une bonne base de clients pour ensuite s'en inspirer, pour bien comprendre en fait qui va être encore une fois notre client, notre profil de client potentiel qui fonctionne le mieux.
Ok, super. Et toi, Sébastien, quand vous l'avez mis, vous avez commencé à le mettre en place chez Microsoft, c'était le bon moment ?
C'était le bon moment en lien avec le fait que nos dirigeants souhaitaient faire évoluer nos modèles d'engagement marketing. Et sur la notion de maturité, il faut qu'il y ait aussi un niveau de direction qui est prêt à faire des investissements, petits ou grands, et qui est prêt également à appuyer ces directions-là, en ce sens où, par rapport au point de Tiffaine, sur la partie formation des commerciaux, c'est de la formation continue et permanente. Et si ce n'est pas appuyé par une direction qui souhaite voir évoluer ses forces commerciales pour bénéficier des insights qui sont générés par des dispositifs d'account marketing, ça ne sert à rien de le faire, c'est une manière. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc il y avait un niveau de préparation côté leadership pour pouvoir le mettre en place. Et puis aussi, le souhait de faire des investissements. Je reviens dessus, c'est-à-dire qu'il faut investir dans des outils, dans des process, des programmes de formation. Et si on ne fait pas ça, on n'est pas forcément avancé.
On ne peut pas le faire à moitié. Quoi. C'est... Et en plus, ça prend... on le verra après, ça prend du temps. Donc, faut pas attendre, on va dire, tout de suite. On peut avoir des premiers résultats, mais en tout cas, il faut prendre le temps nécessaire de s'y consacrer, de s'y investir, surtout porté par la direction de ce que tu me dis. Parfois, au contraire, il y a des projets qui émanent des équipes, qui sont portés par les équipes. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. On va parler d'alignement sales marketing, mais surtout porté par une volonté de la direction d'avoir une forme, une croissance différente. En tout cas, oui.
Je dirais aussi, quand on est en capacité de pouvoir produire du contenu de qualité de façon régulière et structurée, en écoutant les commerciaux en fonction de leurs besoins, et également en lien avec les scénarios qu'on a définis, en produisant, en proposant des contenus de façon récurrente et permanente, des sujets qui sont transversaux, des sujets par industrie, des sujets par produit, etc. Et si on n'est pas en capacité de pouvoir produire et de pouvoir diffuser, donc on vient à la notion d'investissement paid, il vaut mieux pas le faire. On peut faire un one-shot sur un contenu, c'est super. Yule Award va faire le plus beau white paper du monde, c'est super, mais si on peut le faire de façon régulière, il vaut mieux pas avancer.
Ouais, merci pour ce message. C'est vrai, on passe du temps avec nos équipes commerciales passent du temps avec nos clients à dire justement, et certains d'entre eux sont là, si c'est un test sur une vidéo, sur un white paper, ça ne fonctionnera pas. Pour sûr, alors oui, il y aura peut-être un engouement par rapport à la diffusion sur un nombre de clics, un nombre de visibilité, bien sûr, on peut le tracer, mais c'est pas comme ça qu'on aura des résultats à long terme sur la stratégie d'ABM. Hervé, toi qui accompagnes Samsung, AWS, Biomérieux et j'en passe, ces boîtes-là, elles sont venues te voir en disant c'est le moment pour nous d'y aller ou justement c'est plutôt toi qui as réussi à détecter que c'était peut-être des prospects intéressants et que sans dévoiler ta stratégie commerciale, mais en tout cas, voilà, que c'était le moment pour elle d'accélérer sur le sujet de l'ABM.
Non, généralement, c'est le marketing qui vient nous voir, parce que parce que soit la direction générale leur a demandé, ils ont un budget ABM et il faut accélérer, soit parce qu'elles veulent démarrer là-dessus. Mais effectivement, pour revenir à ce que vous dites, je crois que la condition vraiment pour se lancer dans l'ABM, il faut que, un, côté sales, il y ait une organisation account-based selling. C'est-à-dire qu'il faut que les commerciaux grands comptes aient des listes de comptes nommés et peu de comptes sur lesquels ils peuvent se concentrer. Si les commerciaux ont des dizaines de comptes, ça ne marchera pas, ils vont essaimer, ils vont scratch the surface, ils vont juste gratter la surface de leur compte et on ne va pas approfondir. Donc ça, c'est une première chose. Et puis de l'autre côté, côté marketing, il faut un ABM owner, quoi. Il faut vraiment quelqu'un côté marketing qui va être dédié au programme ABM et qui va s'y consacrer corps et âme, qui va faire les alignements, qui va définir les objectifs avec les sales, qui va justement réutiliser tous les contenus qui peuvent l'être dans le cadre des programmes ABM, qui va mesurer les résultats et montrer à la direction générale les progrès obtenus. Voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait du temps de consacrer au programme et, comme le disait Sébastien, également de la patience, parce que les résultats en ABM ne sont pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps de générer, de rencontrer les power contacts au sein des comptes qu'on a visés. Ça prend du temps d'engager les comptes et de faire monter le awareness au sein de ces comptes. Ça prend du temps de générer les premières opportunités. Quand je dis ça prend du temps, ça prend 6-9 mois. Mais quand on bosse avec des boîtes de la tech qui vendent au quarter, il faut produire des résultats au mois le mois. C'est difficile d'impliquer les sales. Voilà. Donc, juste dernier point, c'est aussi pour ça que quand on démarre dans l'ABM, il est important de définir les objectifs qu'on attend du programme ABM avec les sales, avec chacun des sales au niveau de chaque compte, pour que les sales se rendent compte que finalement, ils ne vont pas bosser pour rien et que, deuxièmement, chacun ait un cap à viser et qu'on mesure ses résultats et qu'on voit si on est en ligne.
Complètement aligné avec toi, bien sûr, et c'est ce qui va amorcer, je pense, notre prochaine question, puisque de ce que je retiens de notre premier échange, il y a une certaine forme de maturité, de temps et d'investissement. Pas comme tous les projets, justement, puisque l'ambiguïté réside dans le fait, tu l'as très bien conclu sur cette première partie, qui est qu'on vise un objectif alors annuel, de croissance, on va prendre le temps, mais quand on est dans la tech où de plus en plus on a des chiffres à faire au mois ou au quarter, et du coup d'avoir cette forme d'explication avec nos équipes, c'est ça qui peut être pas forcément évident. Mais vu que du coup c'est une stratégie, le account-based marketing, qui vise à repenser un peu aussi la pratique de la vente, à prendre son temps, il y a un vrai sujet d'alignement des équipes. Vous en avez tous parlé en introduction et en définition, notamment principalement avec le marketing, et on parle justement de monter en compétences. Pourquoi est-ce que c'est primordial, et Sébastien, lorsqu'on échangeait en préparation, tu parlais de former certains commerciaux, certains sales comme des coachs, comme des champions, justement, pour promouvoir à la fois la stratégie mais aussi la montée en compétences des équipes, pour s'assurer, puisque sinon on sait qu'on s'essouffle à répéter et que l'ABM demande à ce qu'on mette du cadre, de la dynamique en tout cas pour que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que c'est primordial justement d'accompagner les commerciaux dans cette démarche de montée en compétences et de sales enablement? Sébastien, peut-être pour commencer.
Alors, pour répondre à ta question et au point d'Hervé, effectivement, on a des ressources dédiées sur la partie account-based marketing, la partie modern selling, qui mettent en place tous ces programmes d'accompagnement, de formation, de suivi auprès des commerciaux, en lien avec des indicateurs très spécifiques qu'on a mis en place pour suivre l'évolution des usages du modern selling et de l'ABM. La problématique, c'est la salle de l'essoufflement. C'est-à-dire que si je commence à faire 50 interventions par semaine, je crame mon ABM marketing manager au bout de 3 mois. La capacité à pouvoir, notamment dans des grands groupes, mettre en place des communautés de champions qui vont être référents, qui vont être reconnus pour ce qu'ils font, pour pouvoir accompagner, coacher, développer les compétences des commerciaux dans ce domaine, c'est un facteur de succès. Pour le mettre en place, on a mis en place on a développé des approches en gamification avec des prix à gagner en lien avec des indicateurs qu'on a développés tels que l'usage du nombre d'insights utilisés sur mon CRM, le nombre de contenus que j'ai partagé auprès de mon compte via mon CRM. On utilise notamment Sismic pour le faire. Donc, on va regarder le nombre de contenus qui sont partagés, le nombre de contacts que j'ai sollicités via LinkedIn Sales Navigator. Donc, on va monitorer le Social Sales Index et on demande aux champions de coacher sur ces sujets de social selling, de modern selling, etc. en continu. Sans ça, on ne peut pas être à échelle.
Ce que tu dis là, Sébastien, ça me fait penser à Tiffen, vous qui, chez HubSpot, justement, vous êtes d'extérieur, nous qui sommes clients, les rois, si je puis dire, de l'alignement sales et marketing, vous en parlez depuis très longtemps, vous le mettez en avant. Est-ce que, tu le disais un petit peu, que dans ton quotidien et dans ta réalité, il y avait un sujet encore et toujours d'aligner ces équipes sales et marketing et d'accompagner les sales. Toi qui es de la partie académie et marketing, c'est quoi un peu les principales difficultés, pas du cordonnier mal chaussé, mais en tout cas, tu vois, que vous continuez à mettre en place pour aligner les équipes et faire en sorte justement qu'il y ait ce cercle vertueux pour pas d'essoufflement, comme disait Sébastien.
Grand sujet, bonne question. Aujourd'hui, ce qui pêche pour nous, pour être tout à fait transparente, c'est qu'on n'est pas sur un équilibre de taille, c'est-à-dire qu'on a une équipe marketing qui est composée de 5 personnes versus une cinquantaine de commerciaux. Donc on veut faire évidemment beaucoup, mais bon, voilà, on ne peut pas travailler 24 heures la journée. Donc qu'est-ce qui est mis en place concrètement pour, en termes de sales enablement? On a créé un nouveau type de poste qui sont des sales coach. Donc c'est différent de ce que moi je fais, car je crée du contenu pour nos commerciaux, mais aussi nos prospects, nos clients. Là, on va avoir des personnes dédiées pour coacher nos commerciaux au modern selling, au social selling. HubSpot, pour les personnes qui connaissent moins, vous donne aujourd'hui en fait des outils clés en main pour analyser toute l'activité de vos prospects, vos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut savoir qui est déjà allé visiter le site internet de HubSpot, qui est allé voir 4 fois la page prix. Là, on va se dire et là, il est peut-être temps qu'on lui passe un petit coup de fil. Mais en effet, je pense que quand on prend le problème à la source, il faut évidemment coacher les sales pour qu'ils se rendent compte en fait que oui, ça existe, ces outils-là. C'est ce qu'on vend, mais c'est aussi ce qu'on utilise en interne. Et donc, je pense que c'est une histoire de prise de conscience. Et surtout, on parle d'outils. Moi, je pense que l'outil principal pour l'ABM, mais en général, c'est la communication.
Oui, c'est bien répondu. Quand tu parlais, ça m'a fait penser à un truc aussi qui est, bien sûr, des multiplications des outils. On peut tout savoir, surtout à n'importe quel moment, quels mails ils ont ouverts, quels contenus ils ont consommés. Vous avez un algorithme qui permet de mesurer le taux d'engagement par rapport au contenu que vous poussez, aux discussions, aux échanges que vous pouvez avoir chez Microsoft. Quand on est à la direction commerciale et qu'on a 5 commerciaux ou 15 ou 50 et qu'on a à peu près 50 outils, on devient presque direction marketing, parce qu'on a un budget d'outils, d'accompagnement. On doit recruter ce qu'on appelle des coûts de structure, des coûts de support, des coachs, tu vois, de la formation à monter. Et donc, il y a un peu un prisme qui a évolué aussi au sein des directions commerciales, qui n'est non plus que de se focaliser sur l'accompagnement à vendre, mais justement l'accompagnement à comprendre son client, le marketing mis en place, etc. Et donc, je pense aussi que c'est un paradigme, ou en tout cas une complexité qui peut y avoir au sein des directions commerciales à se dire, c'est plus que faire du chiffre. Pour le faire, ce chiffre, il va falloir qu'on mette en place tout un tas de choses au début qui prennent du temps, et c'est la difficulté à trouver les bonnes priorités.
Sur ce que tu viens de dire, Inès, attention néanmoins, j'entends, on est en 2022, on a tellement d'outils maintenant à notre disposition. Je travaille pour HubSpot, je sais de quoi je parle, LinkedIn à l'époque aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier le nerf de la guerre ou la base de base qui est en fait l'outil principal d'un commercial, c'est ses compétences en vente.
Les meilleurs outils du monde, s'il n'y a pas cette verve. Et Hervé, justement, toi qui es approché par les directions marketing, mais qui finalement ton client final, c'est l'équipe commerciale. ou l'équipe commerciale et marketing. Comment toi, tu gères en tant que consultant les difficultés qu'il peut y avoir ou comment tu les lèves, justement?
Disons que moi, j'ai été pendant 5 ans VP Sales, donc ça me sert beaucoup. J'ai compris les difficultés qu'il y avait à faire ses quotas, à recruter des nouveaux commerciaux, à les faire grandir, etc. Et ce qu'on se rend compte chez tous les clients avec lesquels je travaille, en tout cas plutôt des grands comptes, c'est que les commerciaux grands comptes, les EAE, les Enterprise Account Executives, ont vraiment pas le temps de prospecter, ils n'ont pas le temps ou ils ne s'intéressent pas trop à regarder les outils. Et il ne faut pas les blâmer parce qu'ils doivent répondre aux appels d'offres, ils ont les revues avec leur boss, ils doivent préparer les meetings, ils doivent faire avancer leur deal, ils doivent participer aux events, et j'en passe. Donc il faut comprendre ça, et il faut comprendre aussi que les ouvertures de portes et la prospection dans le dur, c'était quand ils étaient jeunes, quand ils étaient juniors, et on ne peut pas leur redemander... De passer des coups de fil ou de faire du smart selling. Eux, ce qui leur importe, c'est de faire leur quota. Donc, en fait, dans ces grosses boîtes, les équipes commerciales sont un peu structurées. Il y a aussi donc, j'imagine, chez Microsoft, tu en parlais tout à l'heure, Sébastien, donc il y a des ISR, donc des commerciaux juniors, on va dire, qui sont plutôt sédentaires. Il y a des BDR, donc des commerciaux sédentaires, mais dont le rôle est d'ouvrir les portes et de générer des rendez-vous découvertes. Donc c'est plutôt à ces commerciaux-là que s'adresse l'ABM, puisque c'est eux qui vont concrétiser tout le travail du marketing d'engagement pour arriver à générer des rendez-vous de qualité avec des contacts, ce que je disais tout à l'heure, des power contacts qui sont vraiment intéressants pour les EAE parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller ouvrir des nouvelles portes, de découvrir des nouvelles filiales, d'aller dans des nouveaux départements et défricher le business au sein de leur compte, de leur propre compte. Donc c'est plus sur ces commerciaux juniors qu'il faut porter l'effort, enfin ce que nous on fait, hein. Je ne dis pas que les autres démarches ne sont pas bonnes, au contraire, mais c'est là où on porte le fer, c'est aider ces juniors, donc en leur amenant des playbooks ABM avant de démarrer, des pitchs compte par compte qui prennent en compte la proposition de valeur qu'on offre à chacun des comptes, qui prennent en compte tout l'historique du compte aussi, parce que sur les comptes stratégiques, on ne part pas from scratch, il y a déjà du business qui est fait, et il ne s'agit pas de marcher sur les pieds, sur les plates-bandes des commerciaux grands comptes, et donc de leur amener tous les outils possibles, les HubSpot, les SalesLoft, les LinkedIn Sales Navigator et autres, dont ils ne peuvent pas se passer aujourd'hui, effectivement, pour produire du rendez-vous et ouvrir des nouvelles portes.
Quand tu as commencé à revenir sur le contexte des commerciaux, j'ai vu tellement de gens faire « oui, oui, exactement ». Je crois que ça parlait pas mal, notamment à mes équipes. Tu me fais une super transition, parce que je crois que dans le account-based marketing, il y a un sujet du contenu pour nos clients, du contenu à destination des comptes qu'on cible. Donc, est-ce que c'est ces comptes spécifiques ou ces comptes sectoriels, par exemple? Mais il y a vraiment aussi un sujet du contenu en interne. Le contenu, Tiffaine, en tant que sur l'Académie d'HubSpot, le contenu roi pour accompagner, coacher. Sébastien, tu parlais de Seismic, justement. Le contenu comme étant le vecteur pour accompagner les équipes sales, et Hervé t'en parlait aussi. C'est quoi la place du contenu, justement, Tiffaine, dans le cadre de la stratégie ABM d'HubSpot ou selon toi, d'ailleurs?
En interne, Hervé parlait de playbook, donc guide conversationnel, en bon français, mais non, parce qu'on me tape sur les doigts avec les anglicismes, alors voilà, donc guide conversationnel. Typiquement, on a des outils ABM chez HubSpot, et on va avoir des guides spécifiques à l'ABM, donc après qui sont évidemment personnalisables en fonction de votre cas de figure et du compte qui est ciblé. Mais en termes d'outils en interne, clairement, c'est ce qu'on va recommander. Évidemment, on va avoir une base de données qui soit propre, Je vous parle de vécu, mais je ne citerai pas le nom d'entreprise. Mais moi, j'ai travaillé sur un CRM qui n'était absolument pas propre. Et donc, on avait des cas de figure d'entreprise qui se faisaient contacter, je ne rigole pas, 5 fois par jour par des commerciaux différents. Donc, autant vous dire qu'en termes d'ABM, là, on en est très, très loin. Surtout, ça risque que de créer beaucoup de friction du côté prospect slash client. Donc, en effet, je pense que du côté interne, il faut être sûr d'avoir des outils qui soient propres, d'avoir la bonne formation, la bonne communication, on en parlait tout à l'heure. Et après, en externe, en termes de création de contenu, je pense qu'il faut surtout partir de son audience. Donc, qui est-ce qu'on vise et quel est le type de contenu qui va être pertinent, non seulement pour donc, l'entreprise, le type d'entreprise que je cible, mais surtout mes personas au sein de cette entreprise-là. Typiquement, on va faire donc, du mappage de compte. Donc, on va dire, je vais pénétrer EDF. EDF, il y a beaucoup de directions différentes. Donc, on va déjà les organiser. Et puis, au sein de ces directions-là, on va avoir différentes parties prenantes qui vont être toutes, finalement, décisionnaires hein, dans la prise de décision à terme. Mais il me semble qu'on ne s'adresse pas à un CMO de la même manière qu'un directeur commercial, que d'un directeur ingénierie, que d'un directeur de la DSI. Donc, il va falloir aussi créer du contenu qui est adapté non seulement au compte, mais aussi à chacun de ses meilleurs personas au sein même de ce compte-là.
Vu que vous avez parfois dans vos campagnes des dizaines de milliers de comptes ou de contenus à diffuser ou à mise à disposition à vos équipes, ça m'intéresserait vraiment de savoir, et je pense l'audience aussi, quelle est la stratégie de production de contenu quand on doit faire une campagne Microsoft 365 ou Azure. Est-ce qu'on prend un contenu Hero et on l'adapte finalement à chaque secteur? Est-ce que justement, au contraire, on va le penser comme étant ces 7 boîtes ou ce commercial-là? Est-ce que c'est les commerciaux qui font leurs courses? Est-ce que c'est les clients? Comment ça se passe?
Mentionner l'ensemble des éléments dans la question de ce qu'on peut faire. Sur la partie place du contenu lié au sales, ce qui est intéressant, c'est que auparavant, on n'avait pas forcément de ressources pour pouvoir gérer les contenus. Bon, on avait des ressources en sales enablement, faire des témoignages clients, s'assurer que les témoignages soient facilement accessibles pour que les commerciaux puissent les partager, parce qu'on sait que c'est un outil qui est important quand on est commercial. On n'avait pas forcément de rôle pour pouvoir gérer le contenu disponible au sein du CRM à partager. Et donc, à l'image de webmasters qui sont en charge de la gestion des contenus d'un site web, progressivement, on évolue vers des fonctions, des nouveaux métiers. On parle des nouveaux métiers liés au digital, mais c'est le cas de ressources qui vont sélectionner du contenu soit par verticale, soit transverse. Je prends par exemple le développement durable, le RSE, qui est un sujet hyper important. Quand on est commercial aujourd'hui, quand on est dans une situation d'appel d'offres, on s'aperçoit que là, sur les grands comptes, 6 fois sur 10, il y a des critères RSE à l'intérieur. Moi, en tant que commercial, si je peux partager un livre blanc sur ce sujet, c'est intéressant. J'ai besoin que quelqu'un me le mette à disposition et que je puisse y accéder facilement. Et donc, on va avoir quelqu'un qui est une sorte de content manager pour le CRM et qui s'occupe de ça, qui va écouter les commerciaux sur des sujets qui remontent de façon assez transverse, s'assurer de pouvoir les placer. Et en parallèle de ça, on a énormément de contenus qui viennent du siège, qu'on va adapter, localiser, structurer, mettre sur le CRM. Et on a développé une content factory qui permet de produire du contenu en continu pour nos campagnes, mais également pour des scénarios commerciaux. Et cette notion de content factory, c'est extrêmement utile parce que ça nous permet d'être très agile en fonction d'un événement marché qui va arriver, en fonction d'un lancement, en fonction d'une campagne. Et c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Autre point qui est important sur la place du contenu, c'est de mesurer son efficacité. Et donc là, c'est de se dire, une fois par mois, on va regarder l'ensemble des contenus qui ont marché, qui n'ont pas marché, etc., pour pouvoir non pas mettre du contenu en quantité. La logique des long tail fonctionne, mais c'est très chronophage. C'est plutôt quels sont les 20% des contenus qui vont bien fonctionner, comment je maximise sur ces 20%. Et donc, en rentrant dans cette logique de mesure. Et ça, ce n'est pas forcément évident à mettre en place. Je pense qu'on est encore en train d'apprendre de notre côté comment je mesure l'efficacité vraiment d'un contenu et de s'assurer que je limite le nombre de contenus. Parce qu'au départ, nous, on a fait l'erreur d'en mettre trop. Et en fait, trop de contenu tue l'efficacité.
Hervé, justement, ce qui m'intéresse dans le fait d'avoir ton point de vue sur la partie contenu, c'est au-delà du fait qu'on a pu travailler ensemble et produire du contenu dans le cadre de stratégie account-based pour les clients, est-ce que ça part du fait qu'on a défini un compte cible et que du coup il faut qu'on produise du contenu autour de ce compte cible, ou est-ce que pour commencer on peut se dire on regarde notre bibliothèque de contenu existante et on essaye d'adapter dans nos séquences ou dans nos campagnes quel contenu correspond au persona?
Oui, donc nous on intervient plutôt sur des programmes avec très peu de comptes. Le choix des comptes fait partie de la stratégie ABM qu'on met en place. Et donc, s'il y a peu de ressources au niveau du marketing, on va conseiller aux clients d'aller choisir des comptes dans le même segment, FSI, manufacture, pour limiter au maximum le travail du marketing. Comme tu l'as dit, dans un premier temps, on va recenser tous les contenus déjà disponibles. Et vu la taille des entreprises avec lesquelles on travaille, il y a des tonnes de contenus déjà existants à recycler, à régénérer, à présenter sous un nouvel angle, sans avoir à tout refaire. Donc on pense à la planète, on recycle. Et dans un deuxième temps, comme les commerciaux nous remontent des informations aussi dans leur plan de compte sur ce qui intéresse vraiment leur compte. Donc, quand on travaille sur 3 ou 4 comptes différents, on a les moyens d'aller identifier les grands thèmes qui remuent les comptes et sur lesquels il faut amener des contenus spécifiques. Et donc là, on peut être amené, de façon très pragmatique, à créer des contenus spécifiques, genre webinar qui réunit un plateau d'experts, genre interview vidéo pas trop compliqué à monter, dîner exec. Je pense à Samsung, ça me vient à l'esprit, on avait fait un plateau au showroom Samsung avec tout l'IT d'un compte qui était vraiment stratégique pour eux, pour les faire réfléchir sur la problématique de la cybersécurité et de l'interopérabilité des systèmes, enfin peu importe. Et donc c'était vraiment un contenu, même si c'était un event, il y avait la promotion de cet event à faire, et donc uniquement pour un seul client. Donc à chaque fois qu'on démarre un programme ABM, on crée un plan marketing qui va être diffusé par le marketing sur la base existante dans le CRM, sur ce compte ou sur ces comptes, qui va être également diffusé sur LinkedIn Ads, donc sur des audiences LinkedIn, mais limitées aux comptes auxquels on s'adresse et limitées aux personas qui nous intéressent, et puis qui vont être aussi diffusées via des séquences omnicanales sur LinkedIn, email, etc., par les commerciaux sédentaires qui vont eux-mêmes pousser ces contenus. Le but du jeu, c'est créer de l'awareness, c'est également de générer des leads intéressants sur les contacts qu'on souhaite adresser. Et donc, ça renforce la démarche d'outbound ciblée qu'on a par ailleurs.
Complètement. Quand tu en parlais, justement, j'avais envie de vous demander, respectivement, c'était quoi votre contenu préféré ou phare dans le cadre d'une démarche ABM pour soit que vous ayez vu ou pour HubSpot et pour Microsoft ?
Je vais plutôt donner l'exemple d'une campagne d'ABM qu'on a lancée chez Oracle en 2016 parce que en fait ça résonne beaucoup ce que Hervé a dit sur le fait que le contenu c'est un événement dans ce cas-là, et je crois qu'il faut pas oublier que justement même si on est en 2022 le offline ça fonctionne toujours très bien, surtout avec un certain type de persona ou d'audience. Et donc nous, typiquement, chez Oracle, on avait lancé une campagne d'ABM. Moi, j'étais BDR, donc typiquement, mon but, c'était de relancer les personnes qu'on avait ciblées pour essayer d'organiser un meeting avec eux. Et en fait, on ciblait donc des aéroports et donc les directeurs d'ingénierie. Et ce qu'on a fait, on leur a envoyé une lettre, voilà, en 2016. Et ben, ça a été... excusez-moi l'expression, un carton. Toutes les personnes que j'ai rappelées étaient ravies de la créativité qu'on avait mise en place, à envoyer une lettre plutôt qu'un email. Et donc, j'ai réussi à avoir un meeting de booker avec littéralement tous mes points de contact. Donc, exemple de contenu.
Ouais, franchement, j'adore. Et puis, si vous restez après, on montrera justement les outils qui aujourd'hui permettent de faire des lettres manuscrites que vous pouvez envoyer à vos prospects si vous n'avez pas envie de les écrire, parce que oui, maintenant, on peut même faire des lettres manuscrites, non manuscrites. Bref, à part t'es fermé, Sébastien, toi, un contenu phare peut-être chez Microsoft ?
Un contenu que je trouve intéressant, c'est on a fait un contenu autour de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou qu'on est malvoyante. Et ça fait partie de ces sujets qui sont un peu transverses, qui sont de plus en plus réglementés d'ailleurs à l'image de la partie mesure des émissions de carbone des entreprises. Et on a mis à disposition ce contenu auprès des commerciaux. Ça a permis à une grande banque de s'intéresser à ce sujet et de nous solliciter pour tout un programme auprès de leurs développeurs pour coder de façon accessible leurs interfaces utilisateurs. Et je trouve que c'était une belle histoire et on voit de plus en plus de demandes à ce niveau-là qui sort un petit peu des approches commerciales plus classiques, mais qui a permis clairement de renforcer la proximité avec le compte. Donc c'était hyper intéressant.
Oui, surtout sur les sujets transverses, je trouve aussi. On a parlé du coup de la place du contenu en interne pour coacher, accompagner les sales, les playbooks, etc., les académies qui peuvent être mises en place, le contenu externe donc pour nos campagnes, pour cibler. Il y a un autre sujet qui est apparu il y a 3-4 ans maintenant, ou peut-être plus aux États-Unis, c'est la question du modern selling, du social selling. Tu en parlais en introduction très bien, c'est aujourd'hui ne pas en faire, c'est dégrader son employabilité. En faire, c'est normal, et avoir une communauté ou produire du contenu à destination de ses audiences, c'est même un gain, un plus. J'avais enregistré un podcast avec un SDR de chez Chili Pepper, Eric Elgoir, que vous pourrez aller voir, mais qui m'avait dit, je lui demande à la fin, une fois en off, je lui dis, mais pourquoi t'es SDR dans cette boîte, t'as l'air de super bien t'épanouir, pourquoi dédier voilà, ton temps à interroger, alors au-delà de la curiosité que ça peut procurer, ça faisait, je sais pas, le 50e ou 60e épisode qu'il faisait, et il me dit, mais ça me permet de rejoindre les boîtes de mes rêves dans lesquelles j'ai envie de bosser, parce que il n'y a que des excellents candidats qui vont chez eux et à la fin, ils vont choisir parce que j'ai un podcast, parce que j'ai un réseau, parce que j'ai 5000 personnes sur LinkedIn de connectées. Et franchement, j'ai pris un peu une claque. Je me suis dit, ah ouais, pour moi, réseau était égal école, famille si jamais ça marchait. Et puis, début de carrière pro quand tu es encore jeune, que tu sors tous les soirs pour réseauter, etc. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, c'est ça que je voulais aborder avec vous, c'est que tout le monde sait qu'il faut en faire. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler respectivement pourquoi c'est super important qu'on produise du contenu sur LinkedIn à titre personnel, au nom de l'entreprise et de sa démarche commerciale ? Sébastien ?
Non, j'ai envie de dire, on a toutes et tous un don. On a toutes et tous le don de l'ubiquité. L'ubiquité, c'est être là et pas là à la fois. On est là en présentiel, puis peut-être qu'en parallèle, il y a quelqu'un qui va vous regarder mon profil LinkedIn, me solliciter sur Twitter, voir ce que j'ai posté, etc. Si j'ai posté un contenu qui n'est pas intéressant, un contenu qui n'est pas en lien avec mon parcours, bah peut-être que j'ai manqué de crédibilité. Donc la capacité à pouvoir gérer sa présence en personne et en virtuel devient aujourd'hui un facteur d'employabilité qui est fort et permet soit potentiellement d'obtenir un nouveau job, c'est vrai, c'est un scénario, soit de développer de la confiance, de la proximité avec un compte. Et quand on a déployé les premiers dispositifs sur LinkedIn Sales Navigator, on a fait des mesures par panel. On a regardé les commerciaux qui utilisaient LinkedIn Sales Navigator et ceux qui ne l'utilisaient pas. Et on essayait à la fin de quarter après quarter, de voir s'il y avait une évolution en termes de nombre d'opportunités découvertes. Le point a été qu'en moyenne, il y avait un différentiel par quarter de plus 28 points. 28 points, c'est énorme. Et donc, on s'est aperçu que les commerciaux qui avaient un social sales index élevé, donc qui publiaient de l'information de qualité en fonction de leur secteur, ou de leur centre d'intérêt de façon régulière et cohérente, avec une bonne photo, avec un parcours qui est cohérent, etc., permettait de gagner en efficacité. Et donc, effectivement, ce social selling, qui est associé à du personal branding, aujourd'hui est vraiment important. Et penser à son personal branding, j'ai envie de dire, au sens professionnel du terme, au quotidien, oui, c'est important.
Ouais. Toi, Tiffaine, tu l'as remarqué aussi, justement, toi qui as été chez LinkedIn en plus. Est-ce que quand on est chez LinkedIn, on demande à un commercial de chez LinkedIn de parler de LinkedIn sur LinkedIn ?
Oui. Oui. Clairement, moi, ça a été même dès le début parce que pendant l'introduction de Sébastien, tu parlais de, tu sais, de cette transition entre le on-premise et le cloud. Moi, je suis arrivée chez Oracle à ce moment-là et c'est, j'en suis ravie parce que j'ai appris plein de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des campagnes où j'ai accompagné des personnes à de se déplacer du on-premise sur le cloud. Et donc, du coup, c'était aussi le début, en tout cas chez Oracle, du social selling. Et moi, au début, je me demandais bien ce que c'était. Je sortais de l'université. Voilà, je devais avoir mes parents, mes sœurs sur LinkedIn, donc je partais de très très loin. Et donc on lançait, bah, encore une fois, c'est le principe de gamification, donc on lançait des petites campagnes, voilà, il faut ajouter un maximum de personnes sur son LinkedIn. Je le fais encore aujourd'hui, ça va faire 10 ans hein, que je fais ça tous les jours, que j'ajoute des gens avec un petit message personnalisé. Ça a pris du temps. En effet, chez LinkedIn, moi, tous mes prospects, donc j'avais un portefeuille de compte, tous mes prospects, je les ajoutais sur LinkedIn. Ça me permettait aussi de faire de prioriser mes comptes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'était absolument pas présent sur LinkedIn, ben, je n'allais peut-être pas l'appeler pour lui proposer les solutions de recrutement LinkedIn. Link quoi ? Donc ça de une, et je pense qu'en termes de crédibilité, comme a dit Sébastien, c'est extrêmement important. Bon, moi aujourd'hui, je publie presque tous les jours sur LinkedIn, mais bon, ça fait partie de mon métier. Mais je vois que c'est créateur de beaucoup d'opportunités. J'ai trouvé tous mes emplois sur LinkedIn. Je me suis fait chasser par LinkedIn sur LinkedIn. HubSpot, pareil. Je donne des cours en école de commerce. C'est que via LinkedIn qu'on me contacte. Donc clairement, si vous n'étiez pas convaincu, moi, je vous incite vraiment à travailler sur votre personal branding.
Ce que vous venez de dire tous les deux, on ne peut que s'y mettre. Mais même si la difficulté, c'est la récurrence, c'est faire un post de temps en temps, justement, quand on a une belle chose à annoncer, un super contenu à promouvoir qu'on a eu de la part des équipes. J'espère, en tout cas, je pense qu'on y arrive tous. C'est justement ce côté d'avoir de la récurrence. C'est un peu comme quand on se lance dans la création d'un podcast. On a derrière le besoin de faire de la récurrence pour pas que ça fasse plouf. Mais en effet, c'est un sacré challenge au regard de tous les outils qu'on peut utiliser et toutes les choses qu'on doit faire quotidiennement, si je mets des guillemets. Toi, justement, Hervé, dans les approches de modern selling avec tes clients, tu as des clients de toute taille de boîte, tout niveau de seniorité. C'est pas que des juniors qui ont fait 2 ans de sales, entre guillemets, ou de marketing. Comment t'amènes la brique LinkedIn? Tu parlais tout à l'heure de séquences email où il y a du LinkedIn, il y a de l'email. Ça fait partie aujourd'hui intégrante. Je sais que la réponse est oui, mais pourquoi est-ce que ça fait partie intégrante, justement, au-delà de l'employabilité et du réseau?
Alors, comment on met en place? Oui, donc oui. Mais comment on met en place ça? C'est dans le cadre de l'onboarding des équipes commerciales et du kick-off de l'ABM, dans le guide conversationnel, donc entre parenthèses playbook. On propose aux BDR, donc aux commerciaux sédentaires juniors, même s'ils connaissent déjà LinkedIn, déjà de revoir un peu leur profil pour l'adapter aux comptes qu'on vise, faire en sorte qu'ils suivent les comptes qu'on vise, travailler avec eux l'audience au sein de Sales Navigator, l'audience sur les comptes visés avec des mots-clés dans les titres pour constituer des listes enregistrées de 150, 200, 300 contacts au sein de Sales Navigator, et ensuite utiliser des outils d'automation de type Sales Love, de type Outreach, qui vont permettre d'aller suivre tous ces contacts, de les inviter sur le réseau avec des messages personnalisés, et en cas d'acceptation de réseau, de leur envoyer des messages. Voilà, donc one to one, ce qui permet vraiment au BDR de s'inscrire dans l'écosystème des comptes qu'on travaille et de pouvoir relayer toutes les actions du marketing.
Je trouve que la difficulté, en tout cas une des difficultés de l'utilisation de ces nombreux outils, et notamment de combiner LinkedIn et HubSpot, si moi j'en parle à titre après personnel, c'est justement un peu l'attribution, de voir que est-ce que mon email il a bien été ouvert, répondu, est-ce que ça vient de là, qu'on me répond à mon email HubSpot. Il y a encore, et c'est normal, bien sûr, des difficultés, on s'en parle un peu de la data, d'attribuer plus le dernier clic, mais en tout cas, qu'est-ce qui a fait que le prospect est passé à l'action ou rien que l'échange a eu lieu, par exemple. Et justement, pour terminer et faire un petit break après, peut-être en un mot chacun, quel est le résultat, le KPI, enfin, pour quel résultat, comment on sait qu'une campagne ABM a réussi, si on devait retenir en tout cas qu'un seul ou deux KPI, Hervé, pour commencer.
Si ça se limite à un mot, c'est le pipeline sourcé, donc le nouveau pipeline sourcé, donc c'est vraiment un indicateur sales, même si, comme Sébastien, nos clients suivent un certain nombre de KPIs d'engagement marketing, des comptes, de sollicitations, de leads générés sur les comptes cibles. At the end of the day, c'est vraiment le business qui a été généré et en comparaison du business qu'on s'est donné comme target avant de démarrer.
Toi, Tiffaine, c'est quoi le KPI que vous regardez pour mesurer la réussite de votre campagne, d'une campagne ABM?
En effet, le revenu généré.
On en reste toujours là. Sébastien, est-ce que tu as peut-être autre chose ou tu es aligné avec Tiffaine Hervé?
Je dirais le nombre de contacts qui sont remontés par les campagnes ABM. Au final, le nombre de contacts de qualité qui, au final...
Contact, tu veux dire discussion?
Nous, on appelle le contact, on l'appelle le lead.
Ok, donc le nombre de leads.
Le nombre de leads, le nombre de contacts qualifiés qui permettent par la suite aux commerciaux de pouvoir développer une vente. Parce que, en fait, notre métier côté marketeur, c'est d'assurer qu'il y a les bons contacts qui remontent. Voilà. Et juste sur le point d'avant, par rapport à la prolifération des outils, c'est là où c'est très important d'avoir un CRM qui est sain, comme tu disais, et qui permet d'intégrer tous ces outils sur une seule vue pour pouvoir faire mon suivi au quotidien.
Oui. C'était un débat qu'on avait avec Tiffaine, justement, je lui confiais que je choisissais absolument tous les outils de mes commerciaux en fonction de leur connectique à HubSpot. C'était, et j'ai cassé les pieds à notre direction, à Grégory et Annabelle, en disant non, on ne prendra pas un outil de signature électronique s'il n'est pas connecté à HubSpot, parce que sinon ça ne marche pas. Mais en effet, merci à vous en tout cas pour cet échange, c'était super enrichissant.